L'occasion est bonne, je pense, pour faire le point sur plusieurs questions concernant la pandémie, d'autant plus que notre prochain invité, tu m'apprenais ça ce matin, Jérôme, voit son mandat à la tête du Comité consultatif national de l'immunisation prendre fin aujourd'hui, après un mandat de 4 ans. Il y a des gens qui vont trouver ça dommage, quoi qu'elle pourra continuer, évidemment, de commenter l'actualité. Je pense que c'est une des spécialistes scientifiques que les gens ont le plus apprécié par, entre autres, la clarté de ses propos et l'ampleur de ses connaissances, le microbiologiste, infectiologue et épidémiologiste, Dr. Caroline Couache, qu'on rejoint au bout du fil. Dr. Couache, bonjour.
Bonjour.
Ça vous tentait pas de repartir pour un autre 4 ans, Dr. Couache?
Ben, j'ai pas le droit, mais c'est correct. Je pense que j'ai assez donné, puis il faut laisser la chance aux autres de s'amuser aussi.
Je suis curieux de savoir quel regard vous jetez sur ce mandat-là, en ce sens que il y a 4 ans de ça, on était tellement peu sensibilisés au risque de pandémie et tout ça. Vous vous attendiez certainement pas à avoir les 15 derniers mois là, comme ceux que vous avez vécu. Mais bref, quel constat vous tirez, quelle conclusion vous tirez de votre mandat?
Ben écoutez, effectivement, en 2017, quand j'ai accepté le mandat, on faisait de la vaccination comme on en a toujours fait avec les nouveaux vaccins qui arrivaient, des changements de programme, mais jamais est-ce que j'avais prévu être comme ça au devant de la scène puis être jeté dans le milieu presque de la fosse aux lions. Maintenant, ceci étant dit, je vous dirais que les 14 derniers mois ont été hyper intéressants. Je peux pas dire que je me suis ennuyée une minute. Je pense que tous les apprentissages que j'ai eus, toutes les personnes que j'ai rencontrées au fil des années ont fait en sorte que j'ai pu accomplir ce mandat-là de façon satisfaisante. Puis, écoutez, il y a 3 mois, je vous aurais dit, à la fin de mon mandat, je me sauve en courant. Puis, au fur et à mesure que les dernières minutes approchent, j'ai un petit pincement au cœur quand même parce que j'ai beaucoup apprécié travailler avec ce groupe d'experts-là puis être justement dans le milieu de la fosse aux lions. On a nos contradictions. Qu'est-ce que vous voulez?
Question d'ordre général, Dr. Couache, mais qui, en même temps, je pense, peut être complexe. Puis, il n'y a peut-être pas une réponse claire à donner à ça, mais avez-vous l'impression qu'on est en train de s'en sortir de la crise qu'on vit depuis l'hiver 2020? Avez-vous l'impression, avec les chiffres de la troisième vague qui sont en baisse, avec le taux de vaccination qui avance, avez-vous l'impression qu'on est en train de sortir de ça ou il faut encore rester sur nos gardes pour l'automne et les prochains mois, là?
Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'on est tellement mieux qu'on était il y a quelques mois, avec la vaccination qui avance bien, avec les gens qui commencent à avoir leur deuxième dose, avec le nombre de cas qui diminue. Honnêtement, les Québécois ont fait super bien à travers cette troisième vague-là. Ils ont respecté les consignes. On a maintenu notre distance, même si on avait envie de se voir. Malgré tout, là, on est, je trouve, très bien positionné. C'est sûr qu'il faut aller chercher cette deuxième dose. Là où on pourrait se faire prendre, c'est d'être un peu trop confiant, puis de dire, bon, ben là, avec la première dose, tout est beau, les cas diminuent, c'est l'été, tiguidou, je m'en vais en vacances, puis je vais pas chercher cette deuxième dose-là, mais c'est vraiment la deuxième dose qui va nous permettre de nous protéger contre le variant, entre autres le variant Delta. On sait qu'après 2 doses, il y a 60 à 80 d'efficacité, dépendamment du vaccin qu'on a, alors qu'après une première dose, on a juste 30% d'efficacité. Fait qu'on veut pas être aux prises avec une quatrième vague causée par le variant Delta. Pour l'instant, on n'en a pas beaucoup au Québec. C'est le temps ou jamais de se faire vacciner pour justement être protégé quand il va arriver, parce qu'il va arriver, là, c'est une question de temps.
Parce que ce point-là est très intéressant, Dr. Couache, parce qu'il y a des gens, des fois, qui voient ce qu'ils considèrent comme étant des manques de cohérence dans le message. Et là, ça amène un certain doute ou un scepticisme. Les gens disent, écoutez, au Québec, ils ont été précurseurs en disant, on peut repousser la deuxième dose de plusieurs semaines tellement la première dose est efficace. Mais d'un autre côté, on nous dit, ouf, avec juste une dose, on n'est pas protégé. Donc, comment on peut le justifier? Est-ce que c'est vraiment la notion d'un variant plus contagieux, plus agressif, qui fait en sorte qu'on n'a pas le choix d'attendre les 2 doses?
Ben, il y a le variant, mais il y a aussi que la première dose, quand on a décidé d'étirer l'intervalle vers la deuxième, c'était pour essayer de vacciner le plus grand nombre de personnes possible. Et on savait que cette protection-là serait présente, à tout le moins contre les hospitalisations, puis on l'a vu, ça a marché, mais on savait aussi qu'elle serait pas, ça durerait pas infiniment, là, que pour avoir la protection à plus long terme et la protection complète, ça prenait cette deuxième dose-là. Fait que ça a été une espèce de calcul risque-bénéfice où on s'est dit, on n'a pas beaucoup de doses, est-ce qu'on préfère donner une protection complète à un moins grand nombre de personnes ou une protection partielle partielle, mais quand même bonne à un plus grand nombre, on est allé avec cette deuxième option-là. Parce que, justement, plus il y a de gens qui sont vaccinés, puis surtout chez les personnes âgées, ben plus on est capable de diminuer d'un point de vue populationnel le risque d'hospitalisation puis de décès. Et donc ça a fonctionné, mais pour ne pas se faire prendre à l'automne avec une recrudescence des cas, parce que c'est toujours là qu'on voit une réaugmentation des cas, on se rappellera de l'automne passé, ça va prendre cette deuxième dose-là, et c'est là où vraiment il va falloir maintenir la motivation, parce qu'on a comme l'impression que c'est tout est fini, mais tout n'est pas encore tout à fait fini.
Hier, le docteur Arruda, quand il était questionné sur le passeport vaccinal, a comme évoqué une espèce de quatrième vague, OK? Puis là, vous parlez de ça un peu aussi. Dans le fond, c'est un peu à ça de ça dont on parle actuellement. Est-ce qu'une quatrième vague, est-ce que c'est une question de savoir de quelle ampleur elle va être? Est-ce que c'est sûr qu'il va en avoir une et c'est l'ampleur qui va varier? Est-ce qu'on peut déjà considérer qu'il y aura bel et bien une quatrième vague?
Mais moi, j'ai l'impression que si on atteint notre taux de couverture vaccinale, il va peut-être y avoir une vaguelette, parce que des fois, il recommence à y avoir une transmission de cas. T'sais, qu'est-ce que vous voulez? Quand on est dehors, ça se transmet moins bien. Quand on va tout retourner à l'école en septembre, à l'intérieur, c'est possible qu'il y ait une transmission quand même, parce que les vaccins sont pas efficaces à 100%. Mais malgré tout, il devrait pas y avoir de hausse de cas en termes d'hospitalisation. Mais si on est tous bien vaccinés, moi, je pense que ça va être une petite vaguelette. À moins qu'on ait un variant là, qui nous déculotte encore, là, ce que j'espère qu'on verra pas, mais c'est toujours possible. Mais pour l'instant, on est relativement optimiste en se disant on devrait être capable de reprendre l'école en présence, pas de masque, si tout le monde est bien vacciné.
Hier, dans l'émission, on a essayé de jouer un peu au Nostradamus, on se projetait un peu dans le futur, puis on se disait, est-ce qu'on va avoir un Noël 2021 en zone verte ou un Noël 2021 comme on a connu avant la pandémie? Êtes-vous capable de vous projeter aussi loin que ça dans le temps? Puis bon, moi, je parlais de la notion de ce qui se passe à l'étranger, dans des pays qui sont sous-développés, quand il y a des spécialistes comme vous qui nous parlent de l'importance de pas juste nous vacciner, nous, mais de vacciner la planète au complet si on veut freiner l'arrivée de nouveaux variants. Bref, est-ce que ça pourrait venir changer la donne? On va être rendu où dans quelques mois de ça?
Ben, j'ai pas l'impression qu'on va être revenu à pré-pandémique, c'est-à-dire voyage permis partout comme si de rien n'était. J'ai quand même l'impression que si on réussit à maintenir un certain contrôle sur notre épidémiologie locale, qu'on va pouvoir se voir en famille. Bon, là, on va réaliser qu'il y a de la grippe, là, puis qu'on va peut-être se passer la grippe plutôt que de se passer la COVID, mais je pense qu'on va être capable de se voir quand même. Est-ce qu'on va pouvoir faire des parties à 60 dans une petite maison comme on faisait avant? Je ne sais pas encore si on va être revenu à ce niveau de confiance-là, mais on devrait être capable d'avoir un Noël qui sera bien meilleur que celui qu'on a vécu en 2020.
La question des frontières, vous en pensez quoi? Parce que, bon, là, on a appris tantôt qu'il y avait de bonnes chances qu'aujourd'hui, on annonce que la quarantaine obligatoire à l'hôtel ou à domicile soit abolie lorsque les gens reviennent au Canada, mais est-ce que c'est pas un peu là qu'on perd le contrôle, justement, de la situation à l'interne ici, là?
Ben, c'est là qu'on perd le contrôle si les gens qui voyagent n'ont pas deux doses de vaccin. Je pense que les personnes qui ont deux doses de vaccin, tu sais, avec une protection à 88-90%, même contre le variant Delta, c'est quand même une excellente protection. Fait qu'à moins qu'on s'en aille dans un pays où il y a un variant qu'on n'est pas capable de contrôler par la vaccination, là, ça, il va y avoir un problème. Je pense que c'est facile de lever la quarantaine à l'hôtel et c'est même possible de concevoir de lever la quarantaine complète au retour si on est bien vacciné. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on contrôle cette vaccination-là, compte tenu que pour l'instant, on n'a pas de passeport vaccinal, que c'est pas la majorité de la population qui est vaccinée encore. Je pense que l'idée, c'est de maintenir un certain contrôle jusqu'à temps qu'on ait une très bonne vaccination à deux doses de notre population. Ce qui fait qu'à ce moment-là, même s'il y en a un qui revient puis que lui est malade puis on en échappe un, ben les gens autour de lui vont être protégés, donc il n'y aura pas de transmission à grande échelle. Mais c'est là où ça devient tellement important d'avoir une protection une vaccination à deux doses d'une très, très grande majorité de notre population. C'est pour ça qu'ils contrôlent encore pendant quelques semaines à mois, d'après moi, là.
Justement, Dr. Quash, on a débuté cette semaine là, l'opération accélération de l'administration de la deuxième dose. Et les gens qui ont reçu le Moderna ou l'AstraZeneca, le Moderna, en fait, ne peuvent pas recevoir plus rapidement, pour l'instant, leur deuxième dose. Et là, il y a toute cette question-là, à savoir, est-ce que si on a eu une première dose de Pfizer, on pourrait avoir une deuxième dose de Moderna ou d'AstraZeneca? Il y avait la notion d'effets secondaires plus importants si on avait deux vaccins différents. Mais si je comprends bien, Dr. Quash, encore là, la science et les connaissances évoluent. évolue de jour en jour. On en est où, là?
Alors, pour ce qui est, on n'a pas beaucoup de données sur l'interchangeabilité entre Pfizer et Moderna, mais on a toujours pensé que comme il s'agissait d'un vaccin très semblable, c'est la même plateforme, que tu sais, si on était mal pris, quelqu'un qui avait eu un Moderna quand il est dû pour sa deuxième dose puis qu'il n'y a pas de Moderna pourrait recevoir un Pfizer, parce que l'important, c'est d'essayer de respecter le plus possible l'intervalle le plus court possible. Pour ce qui est d'AstraZeneca suivi par Pfizer, l'étude allemande, elle, a démontré que quand on donnait la deuxième dose à 12 semaines d'intervalle, donc AstraZeneca, puis 12 semaines plus tard Pfizer, il n'y avait pas plus d'effets secondaires que de faire AstraZeneca, et il y avait une excellente réponse immunitaire, en fait meilleure quand on mélangeait les doses que quand on faisait AstraZeneca. Évidemment, ce qui n'est pas encore connu, c'est en termes d'efficacité réelle là, de terrain, est-ce que ça protège aussi bien que le Pfizer ou aussi bien que l'AstraZeneca? On peut entrevoir que la protection va être bonne puisque la réponse immunitaire est excellente, mais on n'a pas encore réussi à prouver ça hors de tout doute là, parce que les données sont en train d'être recueillies. Mais donc, il y a une possibilité de faire ces échanges-là et je ne sais pas exactement quand est-ce que le gouvernement du Québec va permettre ces échanges-là. Ce que j'en comprends, c'est que les gens qui ont reçu de AstraZeneca peuvent se présenter dans des sans rendez-vous. Puis là, je ne sais pas s'ils sont capables d'aller chercher un Pfizer, si c'est du Pfizer qu'il y a là. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore maîtrisé comme logistique, là, mais en théorie, il devrait pouvoir y avoir cette interchangeabilité-là.
Les moins de 12 ans, Dr Quash, on en est où avec ça? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? On en est où avec ça sur cette question-là? Là?
Ben, pour l'instant, les études randomisées contrôlées de phase 3 sont encore en cours. On ne sait même pas exactement quel dosage va être nécessaire pour les plus jeunes, parce que ça ne veut pas dire qu'on va être obligé de donner la même dose que chez les grands. Ils sont plus petits. Parfois, avec une dose moins élevée, ça marche aussi bien. Puis ça n'a pas plus d'effets secondaires. Donc, on attend vraiment les résultats de ces études-là avec les demandes d'homologation au niveau de Santé Canada. Puis quand on aura ces données-là, on pourra prendre une décision. Mais pour l'instant, il n'y a pas de programme de vaccination pour les moins de 12 ans.
Est-ce que ça pourrait venir compromettre la capacité de voyager de jeunes familles? Parce que là, bon, CTV News confirme que le gouvernement Trudeau va annoncer des allègements là, pour les quarantaines, pour les gens qui ont deux doses. Est-ce que ça veut dire qu'une jeune famille avec des enfants de moins de 12 ans pourrait pas bénéficier de ces allègements-là? Ou on pourrait exclure les enfants de moins de 12 ans comme on pense qu'ils sont peut-être moins vecteurs, moins affectés par le virus?
Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est vraiment l'Agence de santé publique du Canada qui va décider ça en collaboration avec les autres autorités internationales. Je pense que s'il n'y a pas de vaccin disponible pour ce groupe d'âge-là, ça serait un peu délétère là, ou en fait injuste d'obliger cette famille-là à se mettre en quarantaine si les trois autres, par exemple, sont vaccinés. Mais c'est une décision qui est à la fois scientifique et politique et donc il va falloir voir ce que l'agence va décider avec le gouvernement fédéral, je ne sais pas.
Bon, le passeport vaccinal, on l'a abordé un peu, Dr Quash, là, puis on sent des fois que c'est un peu délicat comme question. Il y a des questions éthiques, Vous, c'est quoi votre position là-dessus? Autrement dit, est-ce qu'on en fait assez pour peut-être convaincre les gens qui hésitent à aller chercher la deuxième dose, à aller le faire? Comment vous positionnez là-dessus, cette question-là?
Ben, c'est pas tant un passeport vaccinal, mais on a besoin d'être capable de savoir qui est-ce qui est vacciné et qui est-ce qui est pas vacciné facilement. Je comprends qu'il y a tout ce qui est respect des renseignements confidentiels et tout, mais pour rentrer dans un autre pays pourrait nous demander de prouver qu'on a une ou deux doses de vaccin. C'est fait partout pour la fièvre jaune, entre autres. Donc, il y a une possibilité d'avoir cette espèce de preuve de vaccination-là, un peu comme on a au Québec. Là, on a reçu des codes QR à chaque fois qu'on recevait une dose. C'est juste que pour l'instant, il y a personne qui est capable de les lire, mais on les a. Moi, ils sont dans mon téléphone. Je sais juste pas quoi faire avec. mais donc, l'idée, c'est de ne pas utiliser ce passeport vaccinal-là pour dire, tu peux prendre cet emploi-là, je te donne pas d'appartement. Mais il y a rien qui empêche dans des milieux où on pourrait penser qu'il y a un risque élevé de transmission de demander la preuve que la vaccination a été faite versus un test négatif dans les 24 dernières heures. Tu sais, je pense qu'il faut quand même donner la possibilité à des gens qui pourraient ne pas être vaccinés pour différentes raisons, de démontrer qu'ils ne sont pas porteurs de la COVID pour rentrer dans un milieu un peu comme ce qu'ils avaient fait en Europe là, quand ils ont testé les projets pilotes où il y a eu des gros parties, rave entre autres, où les gens avaient soit la preuve de vaccination ou un test négatif dans les 24 dernières heures et à ce moment-là, ils pouvaient rentrer et faire la fête et il n'y a pas eu de transmission. Donc, c'est vraiment dans ces contextes-là où il faut, au-delà de la preuve de vaccination, offrir une autre possibilité pour que les gens démontrent qu'ils ne sont pas porteur de la COVID et que ça met à ce moment-là personne à risque.
On se posait une question avant la pause un peu plus tôt, Dr Quash, et vous aurez peut-être une réponse à nous fournir, parce qu'on parlait de cas particuliers de Québécois qui étaient aux États-Unis, qui ont eu leur deuxième dose, et lorsqu'ils ont voulu obtenir la certification de leur double vaccination, comme il y avait juste eu un délai de 16 jours entre les deux doses, on n'a pas reconnu la validité de la deuxième dose. Donc, ils ont eu une troisième dose de vaccin Pfizer, et là, on se demandait, est-ce qu'il y a un risque à trop se faire vacciner, par exemple?
Ben pour l'instant, il y a pas l'air, là, mais c'est sûr que l'intervalle minimum acceptable au Canada, c'est 19 jours. Alors qu'aux États-Unis, ils ont donné un 5 jours de grâce de part et d'autre du jour 21, et c'est pour ça que des fois, on se ramassait à 16 jours. Mmh. C'est sûr que l'enjeu, quand on reçoit une deuxième dose trop rapidement, c'est que notre système immunitaire n'a pas encore eu le temps de se remettre de la production d'anticorps après la première dose. Fait que la deuxième dose, elle passe un peu comme du beurre à la, comme une lettre à la poste. Là. Notre système immunitaire ne la voit pas passer. Il était déjà occupé à s'occuper de la première dose. Donc, à ce moment-là, tu sais, on est rendu probablement à 6 mois plus tard de recevoir une dose supplémentaire. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque, là, parce qu'on est assez éloigné dans le temps. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient reçu une troisième dose, genre à 14 jours de leur deuxième dose. Je pense que la plupart, ce sont des snowbirds qui sont revenus et qui ont eu leurs deux doses quelque part en janvier, février ou mars, là, puis on est rendu en juin. Donc, de donner une troisième dose, c'est ce qu'on avait, c'est ce à quoi on s'était entendu d'un point de vue canadien.
Docteur Quash, les auditeurs se demandent également qui va vous succéder à la tête du Comité consultatif national de l'immunisation. C'est quoi la suite des choses?
Alors, c'est la vice-présidente actuelle, qui est Dr Shelley Dix, qui était auparavant à Public Health Ontario et qui est maintenant au ministère de la Santé en Nouvelle-Écosse. Elle est à mes côtés depuis déjà 2 ans. On s'est arraché les cheveux ensemble au cours des 15 derniers mois. Donc, elle est tout à fait prête à prendre le relais. Puis, la vice-présidente suivante a déjà été nommée. Là, c'est Dr Robin Harrison, qui est une infectiologue adulte de l'Alberta.
Docteur Quash, merci beaucoup de nous avoir parlé. Félicitations pour votre mandat et au plaisir d'avoir l'occasion de vous reparler à nouveau.
Tout à fait. Merci. Bonne fin de journée.
Merci, docteur Caroline Quash, donc présidente sortante du Comité consultatif national de l'immunisation.
C'est solide, là. J'espère qu'on va l'entendre encore dans les médias, parce que pour clarifier et expliquer clairement des situations complexes, difficiles à battre, docteur.
C'est ça. On aurait pu lui poser des questions pendant des heures, puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de parler à un spécialiste ou une spécialiste, parce que comme ça s'améliore beaucoup, on était moins dans l'urgence de poser des questions là au quotidien. Je sais qu'il y a d'autres questions. Par exemple, ceux qui ont eu la COVID, donc une seule dose de vaccin, comment ils vont avoir leur certification pour pouvoir voyager, ça va être reconnu. De ce qu'on nous avait expliqué, si vous avez eu la COVID, que ça a été diagnostiqué, là, vous avez passé le test, on va reconnaître que c'est l'équivalent d'avoir les deux doses de vaccin, par exemple.